Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre avec l'écrivain et traducteur Claro, dont ce sont, je crois, les premières utopiales, donc il est novice en la matière. Claro, donc, est un personnage assez connu des lettres françaises et internationales, puisque c'est un traducteur... d'une œuvre assez colossale. Il y a vraiment beaucoup de livres. Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Tu as traduit combien de livres exactement ?
Une centaine.
Une centaine. Alors évidemment, parmi ces livres, il y en a qui sont plus connus que d'autres. On peut citer, puisque Claro s'est fait un petit peu une spécialité des romans réputés intraduisibles, une grande partie de l'œuvre, par exemple, de William Vollmann. On a la célèbre Maison des Feuilles de Danielewski, qui est actuellement épuisée, je crois, chez De Noël, mais qui devrait être rééditée bientôt. On peut citer, alors, dans le corpus qui nous intéresse en tant qu'amateurs de science-fiction ici, des romans comme Habitus de James Flint ou... Contre-jour de Pynchon dernièrement, hein, un gros roman de Thomas Pynchon. En tant que romancier, Claro est aussi à la tête d'une production assez abondante, même si finalement un peu moins connue, mais tu as quand même sorti à peu près un roman par an depuis une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Dans les derniers titres parus, on peut citer Chair électrique, par exemple, Black Box Beatles, et puis le dernier né, Cosmos, aux éditions Actes Sud, un pavé qui est sorti à la fin du mois d'août et qui a donc fait partie de la célèbre rentrée littéraire qui s'achève en ce moment, et on est bien content. Alors, Cosmos, on va en parler un petit peu, on ne va pas parler que de ça, mais c'est vrai que c'est un roman dont on peut dire qu'il flirte allègrement avec la science-fiction. Certains pourront même dire que c'est de la science-fiction. C'est évidemment la raison de la présence de Claro en ce lieu. Est-ce que, justement, toi, Claro, qui est plus habitué au salon ou aux rencontres avec un public dit de littérature générale ou de littérature blanche, est-ce que cette invitation dans un salon à vocation plutôt imaginaire, science-fiction, est-ce qu'elle te surprend? Est-ce qu'elle fait sens pour toi? Quel sens tu lui donnes?
Alors, je ne sais pas si je suis surpris, mais a priori je suis plutôt content. Alors, peut-être parce que tu as été un des premiers lecteurs du livre et de par voilà, ta culture et ton parcours dans le monde des lettres imaginaires, j'ai pu voir que ta réaction à mon livre était plutôt positive et que, à la limite, ça t'a presque plus parlé qu'à d'autres lectorats. Alors après, sur la question du... Est-ce que c'est un livre de science-fiction ou de fantasy, je sais quand on a réfléchi avec l'éditeur sur la façon de présenter le livre, à un moment, on a eu l'expression d'une anti-féerie. Qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui elle mérite en tout cas de montrer qu'effectivement le livre se positionne par rapport à voilà, quelque chose de l'ordre de l'imaginaire.
Alors, la plupart des auteurs qui sont invités ici pour des tables rondes, les lecteurs de science-fiction véritable, quand on leur demande quelles ont été, par exemple, leur première lecture, qu'est-ce qui leur a mis le pied à l'étrier, évidemment, les gens ont plutôt tendance à citer des rencontres avec des grands anciens de la SF ou de la fantasy, tels que, je ne sais pas, Tolkien, Robert Howard, Jack Vance, Silverberg, enfin, on pourrait en citer un grand nombre. Il me semble que, toi, le déclic, mais peut-être que je me trompe, ça a été l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, qui n'est pas vraiment... un roman de science-fiction. Est-ce que là on est obligé de ramener un petit peu les choses à la SF, est-ce que toi tu as un intérêt pour la littérature de science-fiction? Est-ce que c'est une littérature qui a pu te former ou te nourrir en tant que jeune lecteur? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu en lis encore ou tu pourrais en lire encore si tu avais le temps?
La réponse est oui, évidemment, parce que tu parles de l'anti-Oedipe, mais ça, c'était, je crois, dans les années 80. Mais moi, en fait, j'ai commencé directement mon rapport d'écriture comme de lecture avec la science-fiction. Enfin, toutes mes premières lectures ont été... Évidemment, outre Jules Verne, des auteurs comme Asimov, Van Vogt, Sturgeon, Clifford Simak, etc. Et dès que je me suis mis à écrire très jeune et très inconsciemment, vers 11 ans, ça a été pour écrire des mini-romans de science-fiction qui faisaient 60-70 pages, mais qui étaient tous liés à des histoires de vaisseaux spatiaux, d'histoires plus ou moins fantastiques. Enfin, c'était mon premier rapport à la fiction, ça a été justement dans cette dimension imaginaire. Et pendant longtemps, je me suis intéressé qu'à cette littérature-là, et je pensais que c'était la seule qui avait des choses à dire, qui pouvait m'intéresser, parce qu'il se passait des choses qui sont de l'ordre toujours du possible, de l'impossible. Et en fait, j'ai mis assez longtemps à me tourner dans mes lectures vers une littérature plus générale, plus littéraire.
Alors on va tourner évidemment pas mal autour de ce thème de la science-fiction aujourd'hui, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Je sais que Claro écume à ces moments perdus les bouquinistes de France et de Navarre pour dénicher des titres des années 50, 60, de science-fiction tout à fait étonnant. C'est des choses qu'on trouve dans les solderies, 5 bouquins pour 1 euro, où il va y avoir le déploiement de toute une contre-culture, si on est méchant, on va dire une littérature de gare. Est-ce que tu as un intérêt particulier pour cette espèce de production iconoclaste sur les... Je sais pas, sur les 50 dernières années, sur les romans, ce qu'on appelle les romans de gare, ce qui est un petit peu malheureusement en train de disparaître aujourd'hui, ce pan de la contre-culture avec des aliens, des nazis, des femmes avec des gros seins, des pistolets laser, etc. C'est quelque chose qui simplement ça t'amuse, les couvertures te font marrer, ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de touchant là-dedans et qui peut te nourrir aussi et que tu peux éventuellement recycler?
Alors je vais quand même pas dire que les aliens nazis avec des gros seins qui tirent au pistolet m'amusent, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Je pense que quand on fait de la fiction, on essaye de travailler un genre un peu ectoplasmique comme le roman. C'est un genre qui est prêt à tout accepter, donc il se nourrit d'éléments les plus hétérodoxes, à la fois du haut, du bas, de ce qui est transversal. Donc, même si je suis catégorisé littérature générale, ce qui ne veut pas dire grand-chose, moi j'ai toujours eu un intérêt pour tous les gens qui écrivaient comme ça, de façon même boulimique, où le souci n'est pas forcément l'écriture, mais c'est un imaginaire débridé, parce que je trouve ça très enthousiasmant. C'est le contraire d'une écriture retenue, qui est plutôt le domaine dans lequel on est quand on est en littérature générale. Et puis il y a une espèce de, enfin moi je trouve, de folie dans ces livres-là, d'inconscience, d'insouciance, qui peut forcément me nourrir de mon imaginaire pour pas rester cantonné comme ça sur des lignes trop dures.
Alors le paysage éditorial français a une spécificité, c'est que il y a cette dichotomie et cette barrière très nette entre ce qu'on va appeler, même si ça fait parfois hurler les puristes, les littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, et puis d'un autre côté, vraiment la littérature générale qui serait auréolée d'une aura de respectabilité qu'aurait pas forcément la science-fiction. Ça, c'est évidemment pas moi qui le pense, mais force est de constater que quand on rentre dans une grande librairie, eh ben, y a un rayon science-fiction où vont les amateurs de science-fiction, avec des couvertures qui se sont un petit peu améliorées au fil du temps, mais qui ont longtemps contribué à véhiculer cette imagerie de littérature pour adolescents attardés. Et puis, de l'autre côté, on aurait les couvertures... très sobre, limite blanche ou uniquement ornée d'une photographie, avec voilà, ce qu'on appelle la littérature générale. Il y avait tout à l'heure un débat sur la transfiction, auquel moi j'ai pas pu assister malheureusement, mais je pense que vous avez peut-être parlé de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est publié en littérature générale ou en science-fiction, parce que finalement c'est une affaire de contraintes éditoriales. Cosmos, pour ceux qui l'ont lu ou le liront, est un livre qui aurait pu avoir sa place dans un certain nombre de collections de science-fiction. Je pense notamment à Interstice chez Kalman Levy, mais c'est déjà un peu particulier parce qu'on est dans un entre-deux. Mais je suis sûr que Marion Mazurik au Diable Vert ou Mireille Rivalan à La Talente auraient pu tout à fait publier ce livre-là. Donc pour toi, où est-ce qu'elle est la séparation ? Est-ce que tu publies, est-ce que tes livres sont publiés en littérature générale parce que tu as toujours été dans, entre guillemets, ce milieu ? Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes, cette dichotomie, ou est-ce qu'au contraire, tu la comprends, tu la défends, tu la revendiques ?
En fait, on s'aperçoit que, et ça je m'en rends bien compte ici, quand on est dans un genre, voilà, en plus, tout est très codifié, donc voilà, il y a des gens qui font de l'heroic fantasy, des gens qui font de la science-fiction pure, des gens qui font de l'utopie, de l'uchronie, etc. Et en parlant avec les gens, on voit que c'est un choix. C'est-à-dire que chaque fois, le choix se fait dans une spécialité voilà, de plus en plus étroite. Enfin, en tout cas, on sent que les auteurs ont fait un choix. En fait, quand on parle de littérature générale, on pourrait dire que c'est justement parce qu'il n'y a aucun choix qui n'a été fait. Alors, est-ce qu'il n'y a aucun choix à faire parce qu'on est dans un non-genre ? C'est-à-dire que c'est dans le roman, mais un roman qui n'aurait choisi aucune spécificité, qui n'aurait choisi aucune pente, aucune inclinaison. Et puis, à côté, il y aurait les gens qui vont faire ou du polar, ou du cyberpunk, etc. J'ai l'impression que... Et on voit, c'est compliqué, parce que tu dis littérature générale. J'ai entendu d'autres expressions comme littérature blanche. On sent qu'on a du mal à définir, mais si on compare... Par exemple, voilà, ce qui se fait ici en SF et ce qui se fait dans ce qu'on appelle la littérature générale, on s'aperçoit qu'en fait, la littérature générale, je crois qu'elle a quand même une spécificité. Et donc ça veut dire que les gens ont fait un choix en étant dedans, même s'il a l'air d'être, de ne pas être un choix, d'être inconscient, c'est que c'est une littérature bourgeoise. Alors je ne dis pas ça méchamment, mais cette littérature-là, c'est une littérature bourgeoise qui s'intéresse globalement à un discours... sur la société, très souvent léger, avec très souvent des protagonistes plutôt aisés. Alors il y a aussi évidemment un roman un peu plus résistant, un peu plus rebelle, mais globalement c'est ça. Sauf que bon, les gens ne se formulent pas comme ça, et on n'arrive pas en librairie, il n'y a pas un rayon roman bourgeois, alors qu'effectivement si on ouvre les livres, c'est toujours des histoires... un musicien qui n'arrive plus à faire de la musique, qui est déprimé, donc qui se retire dans son magnifique prieuré en Sologne, mais là il va rencontrer une jeune factrice rousse, chevelée, qui va lui redonner goût à la vie. Voilà, on pourrait multiplier les exemples, c'est un peu méchant, c'est un peu caricatural, mais il est possible que voilà, ce qu'on appelle littérature blanche, c'est pas un non-choix absolu, et voilà, alors que effectivement la problématique de la société, on pourrait dire qu'elle n'apparaît pas dans la SF, mais on sait tous ici que c'est absolument faux et qu'il y a bien sûr des réflexions en permanence, et ça date pas que de Orwell, sur voilà, ce que c'est qu'une démocratie ou ce que n'est pas une démocratie, sur le contrôle des individus. C'est une littérature, moi, qui me paraît tout à fait en prise parce qu'elle parle des sciences, etc. Globalement, je m'aperçois que tous les auteurs que j'aime bien, pas mal d'auteurs que je traduis, ont une partie de leur lectorat qui est de l'ASF, parce que c'est une partie du lectorat qui est toujours plus intéressée par tout ce qui va être scientifique, technique, et puis aussi géopolitique, mine de rien. Donc ça ne m'étonne pas que mon livre puisse être un peu à cheval là-dessus. Alors évidemment, il épate plus les gens qui lisent de la littérature générale, parce que tout d'un coup, y a des choses... un peu plus magiques qui ont l'air de se passer. Et cette littérature générale, blanche, bourgeoise ou que sais-je, elle s'interdit le magique, comme si le magique était finalement quelque chose d'inconscient et d'irresponsable.
Alors Cette question de la différenciation des genres et des étiquettes, elle est quand même importante parce que c'est comme ça qu'on va vendre ou justement avoir du mal à vendre le livre. Récemment, il y a eu des discussions sur certains forums de science-fiction. Notamment, un exemple intéressant, c'est la collection Lune d'encre chez De Noël, qui est animée par Gilles Dumay. Et pour certains romans qu'il va sortir, il se pose toujours la question de comment je le présente. Est-ce que je le laisse dans ma collection de science-fiction avec une certaine esthétique de la science-fiction, ou est-ce que je le présente comme un roman de littérature blanche ou générale, ou de quelque chose qui serait dans un entre-deux. Et cette question, elle se pose avec d'autant plus d'acuité que récemment, je sais qu'il a parfois fait le choix de publier plutôt les romans en littérature générale et que ça marchait mieux d'un simple point de vue économique. Alors évidemment, ce débat sur la supposée mort de la science-fiction, il est assez récurrent dans nos contrées. Est-ce que toi, à titre personnel, alors tu n'as peut-être pas d'avis sur la question, mais est-ce que tu penses qu'il serait bon d'abolir une fois pour toutes ces barrières et de publier pratiquement tous les bouquins sous une étiquette indifférenciée et de dire il n'y a plus de science-fiction ou de fantastique ou de polar, voilà, il y a des romans, il y a de la fiction, point final, et puis aux gens de s'y retrouver. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée ou...
Non, je pense que c'est très bien comme ça, parce qu'il y a une forme de fatuité comme ça de la littérature générale qui est installée, qui pense qu'elle est la littérature sérieuse. Donc je pense que tant que voilà, tous les tenants de ce genre-là penseront ça, ben, ils continueront à produire ce qu'ils produisent, et puis ils en verront tout le temps les limites. Le fait qu'il y ait des classifications, alors après elles ne sont pas forcément exactes, mais elles ne sont pas exactes non plus dans la littérature générale. C'est-à-dire que vous lisez des livres par exemple sous la couverture blanche de Gallimard, des fois vous vous demandez ce que ça fait là. C'est-à-dire que de toute façon chez Gallimard vous avez aussi bien... des auteurs comme Antonin Artaud, des grands noms de la littérature, et des crétins comme Alexandre Jardin. Donc, eux-mêmes, il n'y a pas de cohérence, de toute façon, dans ce que l'objet est en train de recouvrir. Donc, autant qu'il y ait des catégories comme ça, parce que ça peut amener, après, des lecteurs d'un champ dans un autre. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont découvert Dantec par le polar, et puis après qu'ils l'ont suivi sans s'inquiéter de l'étiquette qu'il y avait là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus à la littérature peut-être en lisant Volodine il y a pas mal d'années, quand il était publié chez De Noël, et qu'on pensait qu'il était un auteur SF. On pourrait multiplier les exemples. Il y avait La Maison des Feuilles de Danielewski, je me rappelle quand il est sorti. Voilà, c'était De Noël, mais c'était pas Lune d'encre, donc c'était littérature générale, c'était un ouvrage en plus un peu expérimental éventuellement. Après, il y a les collections qui classent les choses, mais il y a aussi les libraires. Et La Maison des Feuilles, au début, je l'ai vu dans des librairies, il était en rayon SF. Et ça m'est arrivé une fois ou deux de dire au libraire, ben non, il faut le mettre en littérature générale. Puis après, je me suis dit, mais... Enfin, bon, quelle importance. Ce qui est important, c'est que le livre soit en librairie. Quand on est dans une économie où les bouquins durent que 3 mois, où il y en a de plus en plus et il y a de moins en moins de place, finalement, soyons heureux que les livres soient disponibles. Effectivement, s'il est dans une catégorie, le lecteur qui s'interdit cette catégorie n'y va pas. Maintenant, on peut quand même compter sur la perspicacité des libraires qui connaissent quand même bien leurs lecteurs et qui peuvent faire le pont justement entre ces genres. Voilà, donc les catégories, elles sont dessinées à la fois par les collections et par l'emplacement dans les librairies. À partir de là, c'est cloisonné, mais c'est une question de dialogue entre le libraire et puis peut-être aussi d'autres passeurs, enfin pas les critiques parce que ça n'existe plus, mais il y a sûrement d'autres gens qui peuvent aider à passer comme ça entre les différentes frontières.
Alors en tout cas aujourd'hui on a l'impression que le milieu de la littérature générale et le milieu de la science-fiction, qui sont finalement des milieux assez peu poreux, fonctionnent un peu chacun comme des sortes de biotopes avec leurs règles, avec donc Cosmos, le dernier né de Claro. Tu as dû affronter les périls de la rentrée littéraire, quelque chose que finalement nous on connaît assez peu dans notre petit bastion, la rentrée littéraire. Donc c'est est-ce qu'on en fait partie ou pas, est-ce qu'on est dans la bonne charrette, il y a vraiment la question de la médiatisation, on attend les articles, on attend les nominations éventuelles pour les prix, si on est nominé, est-ce qu'on va gagner, etc. C'est pas mal de stress, on peut le dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te paraît justement une émanation de l'essence un peu bourgeoise que tu évoquais tout à l'heure de la littérature blanche ? Et est-ce que tu aimerais bien être débarrassé de ça ou est-ce que finalement ça t'amuse ?
Alors, le problème, c'est que je connais nettement moins le milieu littéraire de la SF, donc je ne sais pas comment ça se passe.
Il n'y a pas de rentrée littéraire.
Voilà, apparemment, il y a moindre. Enfin, il n'y a pas comme ça un grand moment. Et puis surtout, il n'y a pas cet esprit. Qui rentre dans une logique commerciale qui a aussi des bons côtés, mais il y a un état de concurrence en littérature générale qui est assez fort, c'est-à-dire que on entend même des éditeurs parler même pas cyniquement en disant mon poulain est bien placé ou c'est vraiment un cheval qu'on a poussé. Enfin, je pense que la métaphore hippique elle revient très souvent et elle montre à quel point c'est effectivement voilà, c'est 18 août, parce que chaque année, c'est de plus en plus tôt, les box s'ouvrent, tout le monde part au galop, et puis il n'y en a toujours que 30 qui sont dans le peloton qui va rafler la mise, et puis il y en a plus de 10 qui arrivent sur les podiums. Et c'est un esprit qui est assez désagréable, puisqu'il est complètement hiérarchique, il est dans le concurrentiel, c'est-à-dire quand même le contraire de l'idée de littérature, où un livre il est juste fait pour circuler comme ça le plus librement possible et changer les lecteurs. Donc, on ne sait même pas si on est dans l'ordre du bourgeois. C'est un truc vraiment un petit moment de folie capitaliste que tout le monde a intégré, éditeurs, critiques, libraires. Et on voit des unes de journaux, enfin, je sais pas, dans des livres, des magazines de critique littéraire où il y aura marqué est-ce que tel auteur est le meilleur écrivain du 21e siècle, américain ou anglais, etc. Enfin, donc ils en viennent effectivement à se poser des questions comme ça. C'est qu'il est très bon, c'est qu'il est meilleur, est-ce qu'il y a 10 meilleurs, est-ce qu'il y a 15 meilleurs, est-ce que ce livre-là est meilleur ? J'espère que dans la SF, on n'en est pas encore là et que, évidemment, il y a toujours des différences qualitatives, mais ce n'est pas à se tirer dans les pattes comme c'est le cas en littérature. Alors, il est probable que c'est toujours été comme ça en littérature générale. Il n'y a aucune raison que ça change. La seule chose qui peut changer, je trouve que c'est des livres qui amènent, qui transportent des lecteurs dans un autre monde, qui fait que voilà, des gens ont lu Habitus, alors que d'habitude ils lisaient pas forcément des livres de ce type-là. Mais au bout d'un moment, voilà, on fait des jalons, des ponts, et puis peu importe tous ceux qui restent dans leur petit précaré et qui veulent juste obtenir un chèque. Hein.
Alors pour les gens qui ne connaissent pas encore Cosmos et qui vont avoir peut-être la chance de le découvrir tout à l'heure, puisque Claro sera en signature après cette conférence, notamment pour ce roman, moi, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen d'articuler un discours autour de ce livre que de vous lire la quatrième de couverture qui va vous faire comprendre tout de suite pourquoi ce livre a réellement sa place dans ce festival. Ils sont nés en 1900... Non dans ce monde, mais dans l'imaginaire d'un écrivain, simple personnage d'un roman tout entier voué à la fantaisie, le magicien d'Oz. Mais déjà, le siècle les convoque, déjà les voilà lâchés dans une réalité qui flirte avec l'apocalypse, exhibés autant que menacés, indésirables orphelins en quête d'un paradis perdu. Séparément, puis ensemble, Dorothy, jeune femme un peu naïve, Nick Chopper, un mutilé de 14-18, et Oscar Crow, son alter ego sans mémoire, ainsi qu'Elphéba, une aviatrice qui rêve d'écrire dans le ciel, et Avram et Ezik, deux nains recherchés par le FBI, vont errer de par l'Europe à les États-Unis jusqu'au bout de l'arc-en-ciel des possibles. L'histoire les veut frics, laissés autres, et les nouvelles politiques du pire se liguent pour leur interdire l'accès à la condition humaine. Réclamés tour à tour par la guerre, les cirques, les asiles et les camps, manipulés par toutes sortes de charlatans, Dorothy et ses compagnons n'auront de cesse de guetter des signes de cette ose mythique qui les a vus naître, dans l'espoir à la fois fou et saugrenu de devenir enfin ce qu'ils sont. Le monde est-il en train de commencer ou de finir ? La tornade qui se prépare va-t-elle les sauver ou les détruire ? Cosmos raconte les 50 premières années du siècle, vues, vécues et réinventées par une tribu interlope dans un univers peuplé de vrais bourreaux et de faux guérisseurs, où la seule magie encore digne de ce nom est la résistance au cauchemar. Dans cette anti-féerie, en forme de livre des métamorphoses qui se jouent des frontières entre imaginaire et réalité, Claro propose au lecteur un redoutable voyage aux limites du merveilleux comme de l'inquiétude. Alors, comme il me semble que tu as participé à un grand nombre de tables rondes et de lectures au cours des trois derniers mois, on ne va pas forcément revenir sur cette question finalement un petit peu vaine de pourquoi le magicien d'Oz, pourquoi pas Alice au Pays des Merveilles. Je pense que voilà, la réponse est déjà un petit peu contenue dans la quatrième de couverture. Et puis, j'espère que vous allez avoir l'envie d'aller vers ce livre foisonnant qui est vraiment une expérience de lecture assez unique en son genre. Simplement, justement, cette question du contenu doit être posée très régulièrement. Pourquoi le XXe siècle, l'auscultation de cette sorte de longue descente aux enfers, qui est le passage du début du siècle à 14-18, qui marque le vrai commencement de ces siècles, et puis ensuite à 39-45, avec l'horreur des camps, et puis ensuite la bombe atomique. Tout ça, c'est des choses qu'on a dû te demander mille fois. Je pense que les gens reviennent un petit peu moins sur la question de l'écriture. Cosmos est vraiment un roman qui est travaillé par une écriture, alors je ne sais pas, les adjectifs, c'est peut-être à toi de nous les dire, mais on va dire en tout cas flamboyante, baroque. C'est pas une écriture qui s'économise, c'est pas une écriture banale ou sèche ou blanche. Alors c'est marrant parce que ce matin, à l'hôtel, hein, je suis tombé sur un article dans le Figaro magazine, figurez-vous, consacré avec une grande originalité à Michel Houellebecq. C'est assez étonnant. Et alors on trouve le petit passage suivant qui est titré « Le style importe moins que les idées ». Je pense que ça va beaucoup te plaire. Cet effacement progressif des relations humaines n'est pas sans poser certains problèmes au roman. La forme romanesque n'est pas conçue pour peindre l'indifférence ni le néant. Il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise et plus morne. Écrire le monde, le manifester dans la lettre, en rendre compte, n'est pas une mince affaire et suppose un style adapté, surtout quand ce monde et ceux qui le peuplent s'enfoncent progressivement dans le néant. Dans un tel projet, le goût des formes pour elles-mêmes et l'éventuelle beauté ou laideur qui en résulte s'effacent. Tout comme Jane Martin dans La carte et le territoire, Houellebecq estime qu'il n'a rien à voir avec les formalistes au petit pied. L'ampleur et la profondeur de la tâche nécessitent une écriture radicale dans sa concision, chirurgicale dans sa précision, lapidaire dans son expression. Ce qui se conçoit bien s'énonce brièvement. Tout peut arriver dans la vie, surtout rien. Dépouiller laconique iconoclaste, les métaphores, ça distrait le lecteur. La phrase houellebecquienne cherche tout simplement à exprimer un maximum de sens en un minimum de mots, écrire le moins pour révéler le plus, une extase de l'understatement qui, à défaut d'être belle, a son élégance, celle du désespoir, bien sûr. Est-ce que cet article t'inspire quelque chose, et si oui, quoi ?
Non, après, c'est, on dirait que c'est juste pour répondre à une espèce de... Comme s'il y avait un président des écrivains qui avait dit maintenant il faut écrire moins bien pour vendre plus. Non, on sent juste une haine de la forme. Ce qui est forcément dommage parce que c'est par la forme qu'on communique avec le lecteur, c'est pas avec le fond, sinon c'est une espèce de... C'est une espèce d'arnaque. On peut l'attirer peut-être par un fond, qui est quelque chose de commun, mais en tout cas, quand on tient son lecteur, on le tient par la forme et par des transformations de forme. Donc, je préfère plus parler de. Tu disais tout à l'heure sur mon écriture quelle était sa particularité. Je pense que c'est quand on se nourrit de plein de choses différentes. C'est vrai que dans le livre, je pars d'une histoire un peu naïve, hein, un peu de littérature pour jeunesse. Donc on a un premier fil comme ça qui génère une écriture, voilà, qui peut être naïve. À la fois, il y a tout le côté imaginaire, débridé, donc ça génère un deuxième fil comme ça, un peu plus vibrant. Après, il y a un troisième fil qui est de toute façon mon écriture qui se transforme aussi de livre en livre. Par-dessus, il y a d'autres fils qui s'imbriquent comme ça, c'est-à-dire le fil aussi d'un discours sur l'histoire, d'un discours sur la science, sur la politique. Il y a aussi un discours, une idée poétique qui traverse le livre. Donc, en fait, plus on complexifie la chose, plus, au lieu de devenir opaque, elle peut devenir aussi dynamique, organique, etc. Et donner lieu à une écriture qui, enfin, c'est pas moi, je me mets pas à ma table en disant tu vas écrire comme ça et il faut que ça pétille ou quoi que ce soit. C'est parce que le projet est complexe que ça permet justement à l'écriture de faire des choses qu'elle ne fait pas d'habitude, enfin que je faisais pas en tout cas dans mes autres romans. Donc, mais pour ça, il faut aimer les formes, c'est-à-dire qu'il faut les aimer, il faut les donner à voir, les donner à lire. Dans mon livre, je travaille beaucoup sur la forme de la tornade qui devient en fait comme une forme supérieure, donc littéralement une métaphore qui va exister de façon concrète dans la tornade qui emporte Dorothy, qui l'arrache au Kansas pour la jeter dans l'imaginaire. Et après, chercher d'autres formes de tornade. Qu'est-ce que c'est une tornade? Qu'est-ce que c'est un phénomène qui tourne sur lui-même, où il peut y avoir de l'immobilité au milieu? Comment on en arrive au champignon atomique comme forme ultime de la tornade? En quoi le champignon atomique est une tornade? Donc, enfin, c'est un exemple, la tornade, mais il y a d'autres exemples dans le livre, parce que on travaille tout le temps sur des motifs, etc. Et si on ne travaille pas sur des motifs, sur des formes, sur des rythmiques, alors ça serait peut-être travailler que sur des idées, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on fabrique quelque chose qui a l'air calibré pour simplement qu'on puisse en parler très simplement. Mais le but, c'est pas qu'on puisse parler simplement des choses, c'est pas de mâcher le boulot aux journalistes. Le but, c'est de fabriquer des objets qui vont être un petit peu vivants et surtout qui vont continuer à vivre pendant la lecture et même après la lecture, et qui seront des objets de transmission. C'est-à-dire qu'on a envie de donner ce livre-là. Moi, le livre de Houellebecq, j'ai pas envie de le donner parce que je veux pas du mal à mon prochain.
Alors, justement, cette question de la richesse et de l'exigence du style, mais aussi de la complexité des histoires que tu peux écrire et souvent traduire aussi, parce que c'est un souci qu'on va retrouver, par exemple, dans la Maison des Feuilles. Je pense à cette collision parfois entre le réel et la fiction. À la lecture de Cosmos, on n'a pas un roman qui est donné clé en main, où on vous prend par la main et on vous dit alors ici ça se passe à tel endroit, les personnages ils font ça, là t'es dans la réalité, là t'es dans la fiction. Il y a un mélange, il y a un vertige qui est suscité. Donc c'est un roman exigeant. Il y a un roman, on peut le dire, par rapport à ce à quoi peut être habitué le lecteur lambda, d'une certaine complexité. En tout cas, il est touffu, il est riche, il demande beaucoup et évidemment il donne beaucoup en retour. Alors évidemment, le propos n'est pas de créer des querelles de clochers. Il n'y a pas forcément une bonne littérature, une mauvaise littérature. Moi, je suis frappé par les discours qu'on peut entendre et qu'on a pu entendre notamment ici, au cours d'autres présentations d'auteurs ou de tables rondes. Je pense notamment, alors moi j'ai pas assisté ici à ce genre de table ronde, mais si on parle des romans de Bernard Werber, par exemple, on va avoir un souci de présenter au lecteur des choses volontairement simples, linéaires, et en fait cette exigence vis-à-vis du lecteur, elle peut être présentée comme une sorte d'excès de pédanterie, et voilà, il y aurait donc les auteurs qui écrivent des livres complexes et qui en vérité font les malins et cherchent uniquement les faveurs de Télérama ou des Inrock, et puis de l'autre les gens qui aimeraient véritablement le peuple et qui seraient prêts à à se mettre gentiment à son niveau et donc à proposer des formes simples et un fond simple. Est-ce que pour toi, cette complexité, cette exigence, et moi je retrouvais ça un petit peu dans un discours, même si c'était un auteur dont tu n'es pas forcément très proche, mais qui est Nabokov, qui dans ses cours de littérature aux États-Unis disait à ses élèves, mais la simplicité n'est jamais une vertu en littérature, elle ne doit pas l'être. Est-ce que pour toi, cette complexité de la construction, parce que c'est un récit assez éclaté, Cosmos, et généralement c'est le cas de tes autres romans aussi, donc cette exigence au niveau de la construction et du fond, et qui ne peut être fatalement que servie par une exigence stylistique, quitte parfois à se brûler un petit peu les ailes, est-ce que pour toi c'est la seule façon d'écrire ?
Je ne sais pas si c'est la seule façon. En tout cas, quand on écrit, ce qu'on essaye de fabriquer, hein, d'un point de vue très artisanal, c'est de l'indécidable. C'est-à-dire qu'on fabrique et donc on offre au lecteur des moments où il n'y a pas forcément à décider. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément toujours ce qui se passe, au sens où on sent qu'il se passe plusieurs choses. Donc on sent qu'il va se passer quelque chose dans l'intrigue, voilà. On sent qu'il va se passer quelque chose dans la psychologie aussi, et puis on sent qu'il se passe quelque chose dans l'écriture. On sent que tel passage a une résonance par rapport à un tout, c'est-à-dire que plus on avance dans un livre, moins on est dans un cheminement qui serait d'aller d'un point A à un point Z. Et plus on se retrouve dans quelque chose qui est quand même beaucoup plus circulaire, beaucoup plus dynamique, où le lecteur découvre ce que fait l'écrivain, c'est qu'il lui apprend à lire son livre. Il lui dit voilà. Ça fonctionne comme ça. Donc maintenant, c'est comme une machine et tu l'as fait fonctionner aussi toi-même. Et maintenant, tu sais que quand je dis ça, je dis aussi autre chose. Et à la fois, je ne dis pas telle chose. Enfin, c'est toujours à plusieurs niveaux. Enfin, c'est toujours complexe. Et donc, mon personnage, ben, même s'il ouvre une porte, peut-être que c'est pas la chose principale qu'il est en train de faire à ce moment-là. Peut-être que ce qui comptait, c'était la façon dont il a ouvert la porte, ou pourquoi, ou est-ce qu'il l'a vraiment ouverte. On ne sait pas. Toujours faire plusieurs choses en même temps. Avec, évidemment, tout le monde n'est pas Nabokov, mais le faire si possible avec une grâce, mais une grâce qu'on invente, qu'on fabrique, pas une grâce donnée par le sujet parce qu'on va décrire quelque chose de gracieux et on pense que du coup, on a écrit quelque chose de gracieux, ou on décrit un événement triste, donc on a fait une page qui est triste. Ça marche pas comme ça en littérature. On peut pas se reposer sur le sujet et faire rire en racontant une histoire belge. Hein, c'est plus compliqué. Donc l'émotion, qui me semble quand même peut-être pas le but premier, mais qui est la vibration première d'un livre, cette vibration, il faut la créer à main nue, de façon, avec les propres armes du livre, sans jamais puiser forcément dans des clichés ou des choses prédonnées. Parce que dans ce cas-là, on donne rien au lecteur. Si on le fait juste pleurer avec une chose triste, on le prend un peu pour un con, quand même. Et on fait cette chose que c'est Bernard Werber qui a dit cette chose qui m'a, enfin je pense qu'il m'a bouleversé maintenant pour le restant de ma vie. Il m'a dit il faut voir plus loin dans la distance éloignée. Donc voilà. Donc je pense que cette phrase, elle est philosophiquement, elle va tellement loin que l'explication ne peut être que liée au LSD ou à une carence neuronale. Donc non, il ne faut pas voir plus loin dans la distance éloignée, il faut avoir les mains dans le cambouis et fabriquer comme ça avec les propres matériaux du livre ce qu'on appelle tout simplement les conditions d'apparition de l'émotion ou de la réflexion, etc. Et pas prendre le lecteur pour un lapin qui tombe dans le premier terrier venu.
Alors Claro, traducteur, écrivain, Claro, blogueur aussi, puisqu'il y a le fameux blog Clavier Cannibale, qui est un blog de critique, recension, humeur, dans lequel tu fais assez souvent œuvre de passeur, puisque tu manifestes ton enthousiasme pour un certain nombre de romans, et pas nécessairement ceux que tu as traduits. On sait, enfin, les gens, peut-être parmi vous, certains font partie des 1500 amis de Claro sur Facebook. Si c'est pas le cas, j'espère que ça va changer bientôt. T'as pas de compte Twitter ?
Non, j'ai toujours rien compris à
bon,
Twitter.
C'est pas très grave. En revanche, cet activisme, en tout cas cette présence assidue sur le net, quelque chose qui serait peut-être qui pourrait être aussi la marque de fabrique d'un écrivain de science-fiction, c'est forcément un intérêt, une sensibilité marquée pour ces réseaux communautaires. Est-ce que tu penses que c'est une nécessité pour un écrivain aujourd'hui d'être présent? Alors, évidemment, le blog, c'est... Bon, moi, je pense que la réponse est toute faite. Oui, tu as envie de parler de bouquins, de faire partager tes enthousiasmes. Ce blog a tout à fait sa raison d'être. Et un certain nombre d'articles, d'ailleurs, ont été repris dans un livre qui s'appelle, je crois, Le clavier cannibale, aux éditions Inculte. Je pense qu'il est disponible en librairie. Donc, si vous tombez sur ce bouquin, vous allez tout de suite voir qu'il est travaillé par le même souci d'exigence littéraire que le reste de ta production. Je pense que c'est quelque chose qui te prend pas mal de temps. Facebook, alors je ne vais pas te jeter la pierre parce que je suis pratiquant aussi, mais je suis plus dubitatif. Est-ce que c'est quelque chose, simplement ça te fait marrer, ou est-ce que tu penses qu'un écrivain aujourd'hui se doit d'être présent sur Facebook?
Un écrivain se doit pas grand-chose, si ce n'est de produire des livres. Pour ce qui est de cette activité, voilà, le blog, ou des publications en revue, ou voilà, des phrases de maximum 430 signes et quelques sur Facebook, c'est juste que j'aime bien me confronter à différents temps et différentes intensités d'écriture. L'écriture d'un livre, c'est quelque chose de long, c'est un projet, il y a une maturation, il peut y avoir 6 mois sans bosser, mais en y réfléchissant, il y a la réflexion sur le plan, il y a la documentation, voilà. C'est un temps qui est très long, et qui envahit souvent toute la journée. Donc, moi j'aime bien aussi pouvoir être en prise quotidienne avec le simple fait d'écrire, et comme, bon, voilà, bah, j'écris pas de nouvelles, j'écris pas de petits poèmes comme ça, donc le blog, par exemple, me permet de m'astreindre quotidiennement à un point de vue que je ne fais pas dans mes livres, c'est-à-dire qui serait un point de vue critique, tout en essayant d'avoir les mêmes exigences d'écriture quand il s'agit de faire 40 lignes sur un bouquin que quand j'écris un chapitre. Donc, de même, j'aime bien si une revue me demande de faire un texte, parce que ça suscite un désir d'écriture. Et la traduction, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est encore plus constant parce que c'est un travail encore quotidien qui prend du temps et qui permet en fait d'être tout le temps en train d'écrire à différentes vitesses, à différentes intensités. Et c'est juste ce qu'un écrivain, c'est pas ce qu'un écrivain doit faire, mais c'est en gros c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il peut faire. Je crois que c'est ce qu'il aime faire parce que je ne crois jamais trop les gens qui disent que les affres de la création, je pourrais leur conseiller d'autres affres, ils aimeraient tout de suite l'écriture quand même. Donc après, c'est écrire par tous les moyens possibles, sans tomber, il faut quand même éviter le côté piscopie, ils se mettent à écrire n'importe quoi pour le simple plaisir. Mais je pense que l'écriture, c'est peut-être comme la lecture, c'est quand même une pulsion.
Alors, cher public, il nous reste une dizaine de minutes à peine. Donc, on en arrive au moment rituel et sacro-saint des questions du public. Donc, à vous la parole. Des questions à poser à Claro.
En fait, je voudrais savoir si votre livre, ils ont été traduits dans quelques langues, genre en italien.
J'ai deux livres qui ont été traduits en américain et bientôt il y en aura deux aussi qui ont été traduits en italien.
Et ça va être lesquels?
Alors Cosmos va peut-être être traduit en anglais, sinon un précédent qui s'appelait Bunker Anatomy sort je crois ce mois-ci aux États-Unis. Un précédent qui s'appelait Chair électrique est sorti aux États-Unis et traduit par un écrivain américain qui s'appelle Brian Evanson et qui est un auteur que j'ai moi-même traduit. Voilà, donc on a un échange de bons procédés. Et sinon, il y a eu Madman Bovary qui a été traduit en italien et ils sont en train de traduire Chair électrique en italien. Voilà, mais rien en nord-coréen, par exemple, pour l'instant.
Bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport à... Vous êtes donc un auteur qui utilise les technologies actuelles avec blog et Facebook. Quel est votre avis par rapport à l'édition qui devient électronique, qui semble malheureusement prendre une très mauvaise tournure, aussi mauvaise que l'a fait l'édition musicale, qui donne à l'actualité aujourd'hui de très mauvaises lois, genre Adopi et des choses comme ça. Ça semblerait être une très bonne chose pour pouvoir faire avoir une édition très facile et très pratique, qui n'aurait pas de problème de place de rayonnage et des choses comme ça, puisque l'Internet est vaste et illimité, mais qui, malheureusement, semble, du point de vue des éditeurs, être plus, pour eux, un poison que quelque chose qu'ils pourraient utiliser à bon escient.
Ouais, c'est un vaste sujet. Le problème, et ça on a pu le constater, c'est que les éditeurs français, par rapport à ça, se sont pendant très longtemps, pas tous, mais enfin complètement désintéressés de la question. C'était des problématiques qui ne les intéressaient pas parce qu'on reste dans un circuit commercial assez archaïque. Donc maintenant, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et bon, je ne pense pas qu'il faille leur jeter encore la pierre sur la façon de s'y prendre, etc. Je pense que dans un premier temps, outre le fait de se demander qu'est-ce qu'on va avoir comme support, est-ce qu'on va télécharger, est-ce que la lecture ce sera pour une fois, pour deux fois, est-ce qu'on fait des abonnements, est-ce qu'il y a un risque de piratage, je pense que la première question qu'il va falloir qu'il soit vite et bien débrouillée, c'est des questions juridiques, de droit, par rapport à l'auteur, par rapport à cette protection. Et ça va être compliqué parce que même dans le droit d'auteur français au niveau du papier, les choses sont pas non plus fixes, elles peuvent changer. Peut-être que ça serait bien, enfin c'est François Bon qui insistait là-dessus, qu'un éditeur n'ait les droits d'un livre que 5 ans. C'est pas la peine qu'il les ait peut-être pendant 70 ans vu qu'il en fait rien au bout de 3 mois. Donc je pense que c'est moins sur le médium qu'il faut dans un premier temps s'inquiéter, puisque le médium en plus en 5 ans il va tellement changer que tout serait à repenser. Mais c'est sur ces questions très, très pratiques. Comment on s'occupe de la rotation d'un livre, de sa vie tout simplement. Est-ce qu'on veut continuer un système où les livres ils vivent 3 mois, ou est-ce qu'on change les choses par rapport à ça? Et ben, si on ne change pas les choses par rapport à ça, je ne pense pas qu'il faudra pas s'étonner de ce qui va arriver. Mais bon, c'est un sujet très compliqué.
Il nous reste peut-être le temps pour une dernière question.
Bonjour. Donc ma question c'est la suivante. Vous ne pensez pas que le fait qu'on l'appelle la littérature blanche ou générale, on l'appelle un peu noble, aristocratique ou un peu pédante par rapport au reste aux autres secteurs, est-ce que vous pensez que c'est dû à la surconcentration au niveau des marques?
Non, je pense que ça vient du... Voilà, pour nous, ça nous paraît évident. Le roman est installé, c'est le genre noble, etc. En fait, c'est quand même très récent, enfin, à une certaine échelle. Mais bon, déjà, le roman est un genre tel qu'il est défini, qui est récent, qui s'est vraiment formé au 19e siècle. Et au début du 20e siècle, il n'est pas du tout un genre noble. Les genres nobles, c'est le théâtre et la poésie. Donc, mine de rien, le roman a dû, pendant tout le 20e siècle, et grâce justement à des gens qui déjà déviaient les enjeux du roman, comme les modernistes ou après les postmodernistes, il a dû quand même faire un trajet compliqué qui n'était pas gagné d'avance. Donc après, maintenant, la question de savoir... c'est la littérature générale, est-ce que c'est un peu vain, est-ce que c'est ceci... Il y a un combat commun, de toute façon, entre toutes ces littératures de fiction... Qui sont beaucoup plus récentes qu'elles ne peuvent le croire et qui génèrent simplement après un nouveau rapport au réel et une nouvelle façon de lire le réel et qui fait que maintenant tout nous semble roman et c'est par un effet de lecture que les choses deviennent romans. Si vous lisez l'Odyssée d'Homère maintenant, un enfant il lit ça, en plus traduit en prose, il a l'impression qu'il lit un roman alors que nous on sait que c'est une épopée, que c'est de la poésie. Donc la chose globale, c'est la façon de voir à travers la fiction. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des guéguerres entre soi-disant les tenants de la littérature générale et de la SF, parce que au bout d'un moment, enfin les les écrivains qui font vraiment un travail, ils se lisent entre eux, ils empruntent à d'autres choses. Et voilà, on a cité Orwell, mais enfin bon, je connais quand même pas mal d'écrivains qui lisent dans tous les domaines, qui lisent des polars, mais aussi qui lisent des documents, qui lisent de la philosophie, qui lisent de la poésie. Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir un spectre le plus large possible pour que chaque genre se nourrisse. Je pense que quelqu'un qui lirait beaucoup d'ouvrages de géopolitique et qui serait poète, ça peut être intéressant de le nourrir. Et de même que peut-être ce qui manque aux romanciers, outre peut-être une dimension d'imaginaire, des fois c'est une dimension poétique qui n'ont pas assez incorporé peut-être dans leur travail et qui pourrait nourrir de façon un peu plus intelligente leurs livres. Donc ça ne se limite pas au genre, je pense que ça se limite... Enfin, je veux dire, quand on aime la lecture, on a envie de faire des expériences de lecture, donc on a envie de découvrir d'autres expériences de lecture qu'on ne fait pas d'habitude.
Bon, hélas, on va devoir céder la place à la prochaine table ronde, donc cet entretien touche à son terme. Merci de votre écoute, et puis je rappelle que Claro va signer Cosmos et d'autres ouvrages, j'espère, à la librairie à côté, tout de suite, en fait.
Merci.